Chapitre 47.
Les camions roulaient à faible allure entre les collines blanches. Plus question de suivre les pistes désormais. Lesquelles étaient d'ailleurs ensevelies sous la neige et ne proposaient plus aucun point de repère. On coupait au plus droit par les paysages vallonnés du centre de la France. Prochaine étape. Les ruines d'une ville de l'ancien temps, appelée Tours, sur les rives du fleuve autrefois nommée Loire, et rebaptisée Bord de Sud. D'après Khadija, une grande quantité d'essence gisait là-bas. Une énergie liquide qui pourrait, selon Ismaïl, se substituer au gaz à condition de modifier les réservoirs et les réglages des moteurs. Khadija avait confié à Solman que Benjamin lui avait proposé cette solution après avoir analysé les raies spectrales émises par la réserve souterraine. En revanche, Benjamin n'avait pas trouvé de traces du relais des portes de l'Oise. La déflagration qui avait secoué cette région de la France quelques jours plus tôt, générant une onde de lumière et de chaleur parfaitement décelée par les capteurs atmosphériques, signifiait selon toute probabilité que les légions de l'Apocalypse avaient fait sauter les cuves de gaz liquide. D'autres explosions avaient suivi celle-ci, moins importantes, échelonnées, réparties sur tout le territoire européen. Solman en avait déduit que les Slangs, les Solbos ou d'autres soldats de l'intelligence destructrice avaient localisé puis détruit tous les relais aquariotes. Une course de vitesse s'était maintenant engagée entre le peuple de l'eau et ses adversaires. Les uns voulant mettre la main sur la réserve d'essence de Tours, la dernière possibilité de ravitaillement des camions, les autres cherchant vraisemblablement à l'anéantir. Les chauffeurs avaient pris la décision de rouler sans s'arrêter. Ils ingurgitaient des litres de kawa pour dissiper une fatigue que ne réussissaient pas à chasser les 2 heures de pause nocturne qu'ils s'accordaient. Les chiens et l'ange, répartis en 2 colonnes de chaque côté du convoi, suivaient le rythme sans difficulté. Les aquariotes commençaient à s'habituer à leur présence, de la même façon que les rescapés Schöln commençaient à se familiariser avec les us et coutumes de leurs hôtes. On voyait, lors des courtes haltes, des femmes s'habillaient de tenues vives, libérer leurs cheveux, donner le sein en public, plaisanter par gestes avec les chauffeurs, participer activement aux tâches quotidiennes. On voyait les hommes tailler leurs longues barbes, se dépouiller de leur austérité, essayer leur français balbutiant sur les femmes aquariotes. On voyait les enfants des deux peuples courir ensemble vers les chiens qu'ils osaient approcher et caresser comme des animaux domestiques. Quelquefois, les camions, les voitures ou les remorques s'embourbaient dans la neige par endroits très meubles. On creusait alors avec des pelles un large cratère autour du véhicule immobilisé. Puis on glissait des bûches sous ses roues, on accrochait des cordes à ses montants métalliques et on tirait à 30 ou 40 pour aider l'attelage à se sortir de son enlisement. Glenn avait imploré à plusieurs reprises son grand frère de rendre visite à sa mère adoptive. Mais à chaque fois, Solman avait décliné l'invitation pour une raison ou une autre, mauvaise le plus souvent. Et le garçon s'était éloigné la tête basse, les larmes aux yeux. Glenn n'aurait pas d'enfance lui non plus. Endosser à 6 ans le rôle de guérisseur du peuple de l'eau lui retirait à jamais sa part d'insouciance. Il se débrouillait plutôt bien dans ses nouvelles fonctions, étonnant Ismaïl par l'étendue de ses connaissances et la sûreté de son diagnostic. Il avait déjà remis sur pied la plupart des adultes Schön et maintenu en vie des enfants en bas âge que leur ventre ballonné et leurs membres affreusement maigres semblaient promettre à la mort. Il serait bientôt confronté à la pénurie d'herbes et de préparations. Et il devrait attendre le printemps pour recueillir les plantes et les minéraux que lui avait appris à reconnaître sa mère adoptive. Même s'il s'en voulait de le décevoir, Solman ne se résolvait pas à s'introduire dans la voiture où gisait Raïma. Il n'avait pas affronté toutes ses peurs, lui non plus. Il esquivait un peu trop facilement les miroirs qui lui renvoyaient des images dérangeantes. Pourtant, il en était conscient. Chacune de ces dérobades accentuait son mal-être, troublait sa clairvoyance, l'éloignait un peu plus de lui-même.
On a fait presque 200 bornes depuis le massif central, dit Moram. La jauge sera bientôt au plus bas. Il nous reste quoi? Une autonomie de 50 kilomètres à tout casser.
Arrête-toi si tu vois une pompe, cracha Solman.
Le chauffeur poussa un interminable soupir, comme une cuve se vidant de son air. La morosité du donneur s'associait au mutisme de Khadija pour entretenir une ambiance pesante dans la cabine. Moram, lui, retrouvait goût à la vie depuis qu'ils étaient sortis du massif central. Il tirait profit des enlisements des moindres haltes pour s'éclipser et rejoindre Hora, qui l'attendait toujours au même endroit, à côté de la tache entre la citerne et la voiture. Il ne s'était rien passé entre eux, pas encore, parce que la brièveté des arrêts leur interdisait pour l'instant d'approfondir leur relation. Mais ils se retrouvaient avec un plaisir grandissant, avec également une certaine pudeur, comme si Moram, qui prenait d'habitude ses conquêtes à la hussarde, revenait à ses émois d'adolescent, renouait avec cette timidité qu'il avait longtemps inhibée avant d'abandonner sa virginité dans les bras d'une initiatrice mûre et insatiable. Dans une certaine mesure, Hora était sa première femme. La première, en tout cas, qui lui donnait l'envie d'aller au-delà des relations charnelles, de partager les réveils aussi bien que les coucheries, les riens quotidiens aussi bien que les joutes sensuelles, les petites misères aussi bien que les élans de bonheur. Pour la première fois, il acceptait l'idée de fonder un foyer, une cellule qui donnerait naissance à d'autres cellules et propagerait ses gènes à travers le temps. Il se sentait pousser des ailes, et ses peurs, ses putains de peurs, le laissaient tranquille, pour le moment. Il observa Solman d'un regard de biais. Le retour de Khadija aurait dû le combler de joie et c'était le contraire qui se produisait. Les traits hâves, les yeux renfoncés très loin sous les arcades sourcilières, la bouche crispée, le donneur semblait sombrer peu à peu dans la mélancolie et n'en émergeait que pour lâcher des réflexions agressives, voire franchement méchantes. Sans doute l'inquiétude et la fatigue expliquaient-elles en partie son attitude et peut-être également le manque d'intimité que leur valait ce trajet à marche forcée. Mais le chauffeur songeait que non. Décidément, il ne comprendrait jamais rien au monde des donneurs, et encore moins à celui de Khadija. Après une journée sans difficulté notoire, ils atteignirent au crépuscule les rives d'un fleuve. Dans ce sens-là, on devrait plutôt l'appeler bord de Nord, non ? Rien ne dit que c'est la Loire, objecta Solman. Les rivières ne sont pas aussi larges, et ça ne peut pas être la Seine. Je ne vois pas de ruines. L'embâcle emprisonnait l'eau du fleuve et ne laissait paraître que les échines d'îlots ensevelis sous la neige. Les branches d'arbres décharnés effleuraient la glace cuivrée par les rayons du soleil couchant. Les camions roulaient au sommet de coteaux qui descendaient en pente douce vers les grèves jonchées de rochers et dont les flancs se couvraient de buissons pétrifiés. Khadija posa la main sur l'avant-bras de Solman et d'un regard lui indiqua qu'elle avait une communication à lui faire. Il acquiesça d'un mouvement de menton, trop perturbé, trop sale, pour recourir à la clairvoyance, pour la rencontrer dans le silence de l'esprit. « Arrête le camion, Moram. » Le chauffeur ne se fit pas prier pour obtempérer. La réserve d'essence revêtait une importance cruciale pour l'avenir du peuple de l'eau, mais chaque halte lui offrait l'opportunité de revoir Hora, d'oublier pendant un temps la tension qui lui nouait les muscles du cou et du dos. Il donna les trois coups de sirène d'usage, immobilisa le camion au milieu d'une descente et sortit de la cabine sans demander son reste. Comme à l'habitude, les chiens se répartirent de chaque côté du convoi pour former une haie vivante, vigilante. La silhouette de l'ange se découpait à contre-jour sur le faîte d'une éminence qui dominait le moutonnement blême des collines. « Il s'agit bien de la Loire, » dit Khadija. « Mais nous nous trouvons à l'est de l'emplacement des ruines de Tours, à environ 50 kilomètres. Il nous suffit de suivre la rive du fleuve en direction de l'ouest.
« Ton Benjamin est un atlas autrement perfectionné que celui des prêtres Bakou. » ironisa Solman.
Je ne suis pas certain que nous ayons assez de gaz pour faire encore 50 kilomètres.
Nous ne le saurons que si nous essayons.
Khadija observa par le rétroviseur les aquariotes et les chelnes.
Il profitait de la halte pour se dégourdir les jambes. Elle-même commençait à ressentir une léthargie qui partait de ses membres pour s'étendre à l'ensemble de son corps. Les moyens de transport des hommes étaient non seulement bruyants et polluants, ils présentaient l'inconvénient de les couper de leurs sources énergétiques. Jamais elle n'avait éprouvé ce genre de lourdeur dans les salles et les couloirs de Benjamin. Sa sœur disparue avait sans doute expérimenté, et de manière beaucoup plus brutale, cette inexorable descente dans le cœur de la matière. Conservant ses attributs de sainte dans les premiers temps, elle avait alarmé la tribu sur ses difficultés avant de perdre définitivement le contact. Les dernières nouvelles qu'on avait reçues d'elle faisaient état de son adoption par un peuple nomade et de la poursuite de sa mission. Benjamin avait exploité ces informations pour affiner son analyse et renforcer le potentiel de Khadija.
« Tu redeviens comme les autres, Salman, »
dit-elle sans quitter le rétroviseur des yeux.
« Ton esprit se voile. »«
Je ne suis pas différent d'eux. Je suis de leur temps, » répliqua-t-il d'un ton sec.
« Ils ne sont que les ultimes vestiges du passé, d'un monde mort. »
Alors moi aussi. Pourquoi toi et les tiens ne laissez-vous pas l'intelligence destructrice nous renvoyer dans l'oubli ?
Elle se redressa et le fixa avec une étrange douceur dans les yeux.
Ce que tu appelles intelligence destructrice, l'escato le nomme œuvre de purification, de reconstruction.
Et ton escato ne nous juge pas dignes d'appartenir à son putain de nouveau monde, hein ?
La violence soudaine avec laquelle il avait expulsé ces mots la renfrogna pendant quelques minutes, dans un silence défensif.
« Vous n'êtes pas marqué du sceau, »
finit-elle par répondre.
« Vous gardez en vous cette faute originelle, cette barbarie qui offense la création. »«
De quel côté est la barbarie ? »
cria-t-il.
Qui lance des chiens, des insectes génétiquement modifiés et des bombes sur les peuples nomades? Qui s'acharne sur les femmes, les enfants, les vieillards? Qui dresse les slangs contre nous?
Les éclats de sa voix firent trembler le verre et le métal de la cabine. En contrebas, une volée d'enfants se risquait sur la glace du fleuve, sous le regard attentif des parents et des chiens.
Ce n'est qu'un aboutissement logique. Une solution appropriée à un problème millénaire. L'escato a jugé que la terre devait être retirée aux hommes.
Qui est l'escato pour prononcer de telles sentences?
Le messager des temps nouveaux. Le verbe pur.
Tu en parles comme d'un dieu.
Elle eut un mouvement de tête qui imprima à sa chevelure un mouvement délicat de balancier.
Le concept de Dieu ne signifie rien pour les saints. Nous cherchons seulement à préserver la chaleur de la fusion originelle.
Ismaïl vous dirait sûrement que tout a une fin, même la chaleur des origines. Et si le verbe de l'escato était si pur que ça, tu ne serais pas assise à mes côtés.
Il changea de position sur la banquette pour allonger sa jambe torse. Sa propre odeur lui fouetta les narines.
Benjamin estime que, contrairement au précepte de l'escato, nous avons quelque chose à apprendre des hommes,
dit Khadija.
Qui est Benjamin? Votre roi? Votre père?
Je suis une part de Benjamin, une part de la 12e tribu. Le jour du rassemblement approche, et l'activité des serviteurs de l'escato, de ceux que tu appelles les anges, va bientôt s'intensifier.
Tu veux dire qu'ils vont multiplier les attaques?
Pas seulement. Ils déclencheront la métamorphose finale de la Terre pour la rendre digne de ses nouveaux habitants.
Les phares balayaient des reliefs assaillis par les plantes grimpantes. Quelques murs échappaient encore à l'étranglement végétal qui ne se contentait pas d'envahir les ruines, mais dissolvait les déchets métalliques à l'aide d'un suc extrêmement corrosif. Le suc dont s'était servi Raïma pour fabriquer ses poisons. Les ombres des rares bâtiments restaient debout, masquaient par intermittence les scintillements de la surface gelée du fleuve. Ce trajet nocturne sur le bord de la Loire avait exigé une concentration constante de la part des chauffeurs. Ils ne roulaient pas sur une piste, mais sur un terrain bosselé, hérissé de souches, de rochers, de crevasses, de branches d'arbres. Les chiens, qui avançaient désormais plus vite que la caravane, étaient obligés de ralentir l'allure pour l'atteindre. La nuit et la neige s'étaient associés pour tromper les yeux fatigués par des heures d'attention et entraîner quelques camions dans des chausse-trappes. Moram, en tête de convoi, s'était lui-même fourvoyé dans un fossé. Son véhicule s'était pratiquement couché sur le flanc, sans toutefois entraîner voiture et remorque dans son affaissement. Le crissement de la tôle raclant les arêtes des roches avait réveillé Solman en sursaut. Projeté violemment sur Khadija, il avait craint d'avoir blessé la jeune femme, mais, le rassurant d'un sourire, elle avait glissé les bras autour de sa taille et l'avait gardé serré contre elle jusqu'à ce que les chauffeurs, accourus en hâte, parviennent à décoincer la portière. Il aurait aimé passer toute la nuit blotti contre elle, léché par son souffle, bercé par les pulsations de son cœur. Les chauffeurs avaient perdu plus d'une heure à dégager le camion et à redresser l'attache tordue. On n'avait pas recensé d'autres dommages que le bris d'un phare, le froissement de l'aile et de la portière droite. Mais Moram n'avait pas décoléré jusqu'aux premières ruines de l'ancienne ville de Tours.
« Et maintenant, va où ? » demanda-t-il d'une voix où perçaient des accents contenus de fureur. « On n'a pratiquement plus une goutte de gaz. »
Solman sollicita Khadija du regard. Elle lui fit comprendre d'une mimique qu'elle ne parlerait pas en présence du chauffeur. Comme lui-même n'avait pas la volonté ni l'envie, ni même la capacité de recourir à la vision, il n'avait pas d'autre choix que d'arrêter à nouveau le convoi.
« On a encore besoin de... »« Qui c'est celui-là, bordel ?»
coupa Moram. Un homme s'était perché sur le marchepied, côté conducteur, pendant que le camion roulait au pas entre deux monticules, et d'un geste de la main, il demandait au chauffeur de baisser la vitre. Moram obtempéra, après avoir pris la précaution de tirer son revolver de sa ceinture. L'air froid de la nuit se coula comme un serpent dans la tiédeur de la cabine. Une tête se découpa dans l'ouverture. Solman reconnut instantanément les yeux clairs, presque blancs, qui brillaient comme deux étoiles vives dans la fente d'un passe-montagne.
« T'es vraiment un putain de fantôme, car... Wolf !»
grogna Moram en remisant son revolver.
« Ça se fait pas de grimper en pleine nuit sur un camion en marche. Pour un peu, je t'aurais tiré dessus. Des sangs et des solbos nous attendent à la réserve d'essence. »
Alta Wolf.
« Ils nous ont tendu un piège. »
Moram garda les yeux fixés sur les faisceaux mouvants des phares qui heurtaient des murets ensevelis sous les plantes grimpantes. La couche de neige s'évanouissait par endroits pour dévoiler le béton craquelé des anciennes rues.
« Comment tu sais ça, merde ? T'étais passé où pendant tout ce temps ?»«
Je te l'ai déjà dit. Mon dôme revient par instant. »
Moram donna un coup de volant sur la gauche pour éviter les décombres d'un bâtiment aux trois quarts effondrés.
« Et comment ça se fait que notre donneur n'a rien vu ?»
La question s'adressait à Solman, qui soudain prit conscience qu'il avait manqué à tous ses devoirs. « La vision, elle me lâche, » dit-il d'une voix sourde.
« Ça arrive à tous les donneurs. Elle reviendra quand tu auras résolu certains problèmes. »
Les sifflements du vent et le grondement du moteur avaient contraint Wolf à hurler.
« En attendant, ça arrive au pire moment, » lâcha Moram entre ses lèvres serrées. « On y était presque, bordel. C'est déjà un miracle que personne ne soit tombé en panne de gaz.
Arrête le convoi sans actionner la sirène. Et éteins les phares, » cria Wolf. « Pas la peine de prévenir les solbos et les slangs de notre arrivée.
Tu crois encore qu'ils sont pas prévenus ? Ces saloperies de solbos peuvent détecter les bruits à des dizaines de kilomètres.
Possible, mais inutile d'en rajouter. »
Moram freina en douceur, en espérant que les autres avaient suffisamment gardé de réflexes pour éviter d'emboutir les remorques ou les voitures qui les précédaient. Solman ne descendit pas lorsque Moram eut rejoint Wolf en bas du marchepied. Il resta prostré sur la banquette, aux prises avec un sentiment de culpabilité dont la virulence lui rongeait les sangs et ravivait la douleur à sa jambe tordue. Il s'était montré incapable de surmonter ses états d'âme pour remplir ses devoirs de donneur. Incapable de dépasser son petit moi pour se dissoudre dans l'infini de la vision. Sans Wolf, ressurgi in extremis du néant, les aquariotes auraient donné tête baissée dans le piège. Les voix graves des chauffeurs qui accouraient vers le camion de tête résonnaient comme un cœur accusateur. Le regard insistant de Khadija accentuait encore sa détresse. Il ne faisait partie d'aucun monde, refusant la laideur de celui qui l'avait vu naître, trop laid lui-même pour accéder à celui qui se présentait. Écartelé entre ciel et terre, infirme de corps et d'esprit, Wolf, lui, avait assumé son terrible destin. Il avait étouffé orgueil et remords pour mener une existence solitaire, clandestine, inconfortable, tolérer les limites blessantes de son moi pour se consacrer sans faille à l'œuvre de sa vie. Solman prit conscience qu'il n'avait pas toujours appris à s'accepter, et que s'il débordait parfois de compassion, il n'acceptait pas la déformation de Rahima. Il n'acceptait pas son passé, il n'acceptait pas les autres. Il n'acceptait pas l'humanité. Il n'acceptait pas la vie dans son ensemble. Il n'avait jamais cessé, comme Moram, d'être un orphelin, un enfant perdu dans un monde hostile. « Va leur dire que j'envoie les chiens en reconnaissance. » La voix de Khadija glissa sur lui comme un songe. Il ne bougea pas. Il n'avait pas envie de croiser les regards des siens. « Toi non plus, tu n'avais rien... » perçu, rien deviné, bredouilla-t-il. Je suis relié à Benjamin. Benjamin est relié au serviteur de l'escato, pas au Slang ni au Solbo. Et l'escato le sait. Elle lui pressa l'avant-bras avec fermeté. Va leur dire, Solman.